Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi c'est Mika.
Moi c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue pour ce deuxième épisode chez Jean-Yves Farrère. Donc on est toujours à Orschwiller. Donc comment ça va se dérouler aujourd'hui? On va goûter un troisième vin donc de chez Jean-Yves. Et Adrien Jules Lavigne va nous faire déguster un vin de... J'allais dire sa composition, pas vraiment, mais de ses trouvailles, de ses nombreux voyages qu'il aura fait sur les routes de France.
Jetzt trinken wir.
Qu'est-ce qu'on goûte?
Eh ben, on va commencer par la bouteille que j'ai ramenée, justement. Donc, on va partir en Bourgogne. On est du côté de Mâcon, donc sur l'aire d'appellation Mâcon-Locher et au domaine Tripose, donc le domaine Tripose de Céline et de Laurent. Je vais vous servir d'abord et puis on va en discuter un petit peu par la suite. Donc, on parlait de Chardonnay, justement, tout à l'heure... qui est planté exactement off, qui est planté en Alsace. Donc là, bah, on va sur la terre du Chardonnay, on est en Bourgogne.
Ça sent le cul des vaches, hein. Ça, c'est...
Le cul des vaches, c'est pas très positif, ça.
Ah, si.
Le cul des vaches, c'est positif.
On a un côté foin, un peu brioché. Jean-Yves.
Effectivement, ce côté gourmand... Qu'on a un peu plus sonné. Tu parlais de côté brioché, quelque chose comme ça. Moi, je trouve qu'il y a une bonne longueur aussi. Il y a un côté qui est très rond, qui est apporté par l'élevage en bois. Donc, pour parler un petit peu du domaine, Laurent, c'est un ancien ébéniste qui a fait sa reconversion dans le monde du vin au début des années 90 et qui est en biodynamie depuis 2001. Donc, ça fait un petit moment maintenant et puis il sait de quoi il parle. On est sur les plus vieux chardonnays du domaine, donc des chardonnays qui ont à peu près 80 ans et qui n'ont jamais connu la chimie, qui sont certifiés bio depuis 1970. Donc c'est un des premiers vins que je propose qui est où il y a un élevage en bois qui se sent mais qui est quand même assez subtil. Je sais pas ce que tu en penses, Jean-Yves.
Non, on sent pas le côté boisé, je trouve.
Ouais.
Non.
Moi je trouvais que c'était quelque chose qui venait, mais effectivement c'est assez subtil. On garde quand même ce côté minéral. Moi, je le sens plutôt en fin de bouche, ce côté bois quand même. Mais on n'est pas sur des barriques neuves, effectivement. C'est des barriques qui ont plusieurs vins.
Combien de temps élevé en barrique?
C'est un an d'élevage en barrique. Donc là, on est sur le millésime 2017. Un an d'élevage en barrique. Donc voilà, quelque chose que je trouve de très équilibré et puis avec une bonne longueur.
C'est vraiment très bon. C'est simple, c'est droit.
Oui, contrairement au cul des vaches dont tu parlais.
Ah non, c'est Michel Leb qui disait un bon vin est un vin qui sent le cul des vaches.
Écoute, ça doit être la 500P qui est utilisée sur le domaine qui rend ça.
Ou un vin qui se pisse bien aussi, c'est ça?
Je ne sais pas, il faudra lui poser la question si un jour on le croise. Non, non, c'est quoi, c'est des jeunes vignerons, c'est...
Pas du tout, enfin pas du tout, je vais pas... je vais pas leur... Mais bon, ils ont, ouais, ils doivent avoir une cinquantaine d'années quand même. Bon, ils ont commencé début des années 90, ils avaient déjà une autre vie avant, donc oui, voilà, je pense une cinquantaine d'années. Ils font ça à deux, donc sur le domaine, dans un très, très joli village de Locher-Mâcon. Quelque chose de très sympa, des vieilles pierres.
Comment tu as atterri à Locher-Mâcon ?
Comment ?
Comment tu as atterri là-bas, toi ?
J'avais eu l'occasion de goûter, pour être tout à fait franc, leur crément, que j'ai vraiment apprécié. Je ne connaissais un petit peu moins leur vin tranquille, donc je suis allé chez eux dans leur domaine pour goûter un petit peu tout ce qu'ils faisaient, et puis cette cuvée-là m'a beaucoup plu. Donc il faut savoir que leur crément est très sympa, ils font aussi un bourgogne à ligoter en pétillant, en méthode champenoise aussi, qui est vraiment super intéressant, très très acide. Mais pour le coup, je voulais pas forcément avoir de bulles, donc la Bourgogne étant une région dans laquelle je ne suis pas beaucoup allé pour l'instant, je pense que c'était intéressant de monter sur place.
C'est vrai que je n'ai pas goûté beaucoup de bourgogne blanc, et à mon grand regret au vu de ça, parce que c'est extrêmement bon, c'est bien fait, c'est bien travaillé. Je mettrais bien ça avec, je sais pas, avec des huîtres, avec des huîtres, ce serait plutôt pas mal. C'est le type de vin, alors on est mois de décembre, qui serait assez... En plus, on est le 15 décembre, donc vous pouvez encore choisir vos vins pour les fêtes. Si vous prenez un plat de fruits de mer, bah, ça c'est un vin qui est assez appréciable. Et alors, sur les deux vins qu'on a goûtés dans le précédent épisode, quel est le vin que tu mettrais sur la table de Noël et avec quoi ?
Je mettrais le Pinot Gris. Justement, si vous aimez bien le foie gras, moi je trouve que c'est bien aussi de changer plutôt que d'un vin trop sur le sucre, de compenser. Voilà, on choisit quelque chose de sec, mais ça ira très bien aussi avec le foie gras.
D'accord. Et toi, tu le mettrais avec quoi ?
Moi, ce vin-là, je le mettrais plutôt sur des viandes blanches. Je trouve que il n'y a pas forcément... Enfin, avec les huîtres, je mettrais quelque chose avec un peu plus d'acidité, peut-être. Mais c'est peut-être un avis personnel. Donc, je le mettrais plutôt sur une viande blanche en sauce, peut-être. Avec des marrons, faudrait essayer, vu qu'on est dans la période de Noël. Donc, pourquoi pas ? Je pense que ça peut vraiment bien... Il y a ce côté rond, quand même, et gourmand, qui peut bien aller avec une dinde au marron. Pourquoi pas ?
Je suis assez d'accord. En tout cas, comme d'habitude... Excellent choix.
Merci beaucoup.
Place au deuxième vin.
Jetzt trinken wir.
Du coup, on va passer sur le deuxième vin. Alors, je crois... Alors, une petite anecdote sur ce vin. Moi, j'avais goûté il y a 2 ans. Je ne sais pas si tu te rappelles la fameuse photo.
Si, c'était un tuit apéro, non ? C'est pas ça ?
Non, c'était pas un tuit. Moi, je suis passé entre les vignes pour venir te voir.
Ah oui,
et
oui,
j'avais pris une
début
photo.
Avril.
C'était en 2017. Et en publiant la photo, il s'est rendu compte que sur le tonneau, il y avait encore marqué 2016.
C'est ça.
Donc, j'ai permis. Voilà. Alors, c'est la première fois depuis qu'on a lancé du raisin et des papilles, qu'on va boire un vin rouge, puisque jusqu'à présent, on a bu Yago, qui était un vin...
Géorgien.
Voilà.
On a enfin, bu... un vin blanc de macération.
C'est ça. Et on a bu 3 vins de chez Florian, un vin du Jura... Chez qui ?
Domaine de la Borde, Julien Maréchal. Voilà.
Tu vois, en fait, c'est un dictionnaire, Adrien.
Et... Fonctionner le bon bouton.
C'est ça.
Qui me regarde, tac.
Les deux premiers vins de chez Jean-Yves. Et puis, le vin de le Bourgogne blanc qu'on vient de boire. Et donc, place au Pinot Noir. Donc, on sent bien le côté bois au nez.
Pas tant que ça, je trouve.
Donc, il est élevé en barrique maintenant ?
Alors, c'est d'octobre 2018 jusqu'en juillet 2019.
D'accord. Ouais, il est...
On a beaucoup de fruits sur cette année, 2018. Récolté début septembre, 15 jours de macération. Et puis, un entonnage une semaine après.
J'aime bien parce qu'il a une vraie structure. C'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que les pinots noirs alsaciens, il faut les boire à 10 degrés et puis c'est de l'eau, quoi. Et puis finalement, là, il y a quand même une vraie structure. Et...
Ouais. Vraiment, pendant longtemps, je ne buvais pas de pinot noir. Détestais ça. Ça me faisait penser à... Un peu comme le Sylvaner. Ça me faisait penser à les années 90, un dimanche soir... Fin de week-end, un peu triste, devant 7 sur 7. Enfin, c'était d'un ennui abyssal. Et en fait, un jour, j'ai rencontré un vigneron. C'était Suzy, de Thomas André et fils. Et il avait fait un pinot noir. Et moi, j'ai dit non, je veux pas de pinot noir. Je bois pas de pinot noir. Fais aller goûte. J'ai dit non, je veux pas goûter. Au final, j'ai goûté. Et j'ai trouvé ça bon. Et du coup, bah, en fait, mon histoire a repris avec le Pinot Noir. Du coup, maintenant, je les goûte beaucoup plus facilement. Et puis, bon, surtout qu'il n'y a pas que des Pinot Noirs en Alsace, donc il y a pas mal de différences. Donc, ce Pinot Noir fait partie des grands crus, c'est ça ?
Non, du tout. En fait, c'est pas, on n'est pas sur un grand cru, là. C'est un assemblage qui provient de terroirs très différents. On a une partie, on a une vigne à Ipfig, là, sur du Leus, donc on a, mais qui est exposée sud, donc qui est souvent très précoce.
D'accord.
Qui est toujours très précoce. Mais comme Ipfig est un petit peu moins précoce qu'Orchulaire, du coup, on se retrouve à une même maturité qu'à Orchulaire. On arrive à les récolter dans un intervalle de 2 jours, et on a des maturités qui sont très proches.
Et Pinot Noir, c'est récolté quand d'habitude ?
Eh bien, je vais dire, ça dépend des années, forcément. Là, on est début septembre, hein. Donc c'est très tôt.
T'as dit que tu faisais macérer 15 jours, c'est ça ?
C'est ça, ouais, 15 jours. Non, c'est totalement éraflé.
D'accord.
Donc pas de rafle du tout.
Mm-hmm. C'est un côté assez végétal, je trouve, sur le vin, non ? Je sais pas ce que tu en penses.
Peut-être le côté jeune encore, pour l'instant, ouais.
Donc 15 jours de macération.
15 jours de macération, pas de levure du commerce, hein, donc ça part spontanément, et pas d'autres interventions, juste un peu de SO2 au début, et puis même pas les mises en bouteille. Donc là, voilà, c'est vraiment très, très simple, pas d'autres intrants.
Légère filtration. Peut-être.
Alors cette année-là, 2018, une légère filtration. Après les autres années, cette cuvée, généralement, elle n'est pas filtrée. Donc on la laisse décanter tranquillement et c'est mis en bouteille directement comme ça.
Qu'est-ce qui a fait que sur cette année-là, justement, tu as décidé de filtrer ce vin ?
Alors en fait, il restait un tout petit peu de sucre, on va dire, qui pouvait poser de problème. C'est-à-dire on est un peu au-dessus d'un gramme. Mm-hmm. Donc pour éviter vraiment tout risque, là, on a passé une légère filtration.
Pour éviter une deuxième fermentation ?
Bah, pour éviter que d'un coup ces sucres ils se retrouvent à fermenter alors que bon, c'était pas le but quoi.
Du coup, on le boit avec quoi ? À part la terre flambée.
Bah, moi, je verrais bien ça avec des rips par exemple. Et puis sinon, un tian, voilà.
Une bonne côte de bœuf bien grillée. Bon, c'est pas l'époque des barbecues, mais.
Bah, sinon, ouais, non, une pisse à la dière, hein, si tu veux pas terre flambée.
Ah, moi, j'aime bien la terre flambée, mais c'est vrai que souvent, on mettait des pinots noirs avec les terres flambées et c'était pas forcément des grands pinots noirs.
Vous buvez du rouge avec les terres flambées, vous ?
Ouais.
Ça m'arrive, oui.
Ah, d'accord. Ouais.
Ou alors, dans les restaurants alsaciens, c'était les Delsviker, qui est pas forcément mon... j'aime le plus. Après, je mets au débat un vigneron qui fait des Delsviker, qui est très bon. Contactez-nous.
J'allais dire, ça existe forcément du bon Edelsviker. J'ai commencé par justement des régions et des appellations qui n'ont pas forcément bonne réputation, le Muscadet, le Beaujolais pour certains, et il y a forcément du bon partout, il suffit de bien le travailler. Il ne faut pas se fermer des portes sur des appellations, sur des terroirs, sur des méthodes de vinification.
Nous ne sommes fermés à rien, ouverts à tout, un peu sceptiques quand même. Bon bah, merci Jean-Yves pour sa dégustation.
Merci.
Merci à toi.
On va passer à la deuxième partie de cet épisode. Alors, on a décidé tout simplement de lancer un petit débat, une petite question qui fâche ou pas ?
Pas forcément, mais une question que je pense qui est intéressante pour l'appellation, parce qu'on va parler principalement dans ce podcast de vin d'Alsace, donc je pense que c'est intéressant de se poser des questions sur l'appellation, sur le futur, sur le passé.
Du coup, on va poser un débat, une question. À chaque fois, le vigneron ne saura pas de quoi on veut parler, mais on va pas le piéger non plus. Nous sommes bon enfant. Jean-Yves, il est prêt, là. J'ai l'impression qu'il va passer l'épreuve de philo, là.
Non, c'est pas du tout une question piège ou une question hyper polémique, mais je pense que c'est une question qui revient même un peu souvent. Le suspense est à son comble. Non, je voulais parler de la question de la sucrosité dans les vins d'Alsace et du manque de lisibilité qu'il peut y avoir pour les consommateurs, notamment en restauration où on ne sait pas si un pinot gris qu'on va commander a beaucoup de sucre ou pas, si quand on débouche une bouteille, il y en a ou pas, sur quoi on peut les accorder justement. Et je sais qu'il y a quelques années, il y avait commencé à avoir sur les bouteilles des petites indications du sec jusqu'au moelleux. Et je crois que ça a été retiré par l'appellation. Pourtant, c'est une question qui me semble central sur les vins d'Alsace, si on a envie de pouvoir les exporter. Donc, quel est votre avis là-dessus ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce que...
Donc, si je comprends bien, tu voudrais aller un peu plus sur... Tu voudrais mettre sur l'étiquette des informations en plus sur la sucrosité.
Je pense que pour les vins d'Alsace, ça me paraît primordial, effectivement, de mettre au moins, voilà, s'il est 100% sec. Je sais que toi, tu as mis sur ton pinot gris sec, justement, en dessous. Donc ça, c'est super intéressant. Mm-hmm. Pour ceux qui ont encore un petit peu sucré résiduel, mais pas trop, voilà, comment on pourrait faire pour que le consommateur, il ouvre pas une bouteille en se disant, bah tiens, là, je me fais un poisson et ah mince, il y a du sucre, quoi.
Mais est-ce que tu voudrais, parce qu'il y a un autre débat en fait qui est un peu en lien avec ce que tu dis,
oui.
C'est que on entend de plus en plus des consommateurs qui demandent d'avoir l'ensemble des produits, si des produits sont utilisés, etc., sur l'étiquetage, d'avoir un étiquetage beaucoup plus précis. Et on a aussi demandé à ce qu'il y ait une femme, pour les femmes enceintes, etc., d'avoir vraiment une signalétique un petit peu plus.
Alors ça, pour moi, c'est une question qui est totalement différente. Évidemment, dans l'idéal, ce serait le plus de transparence possible, ce serait l'idéal. Néanmoins, je pense que de rajouter la liste des ingrédients aujourd'hui sur une bouteille, ça me paraît vraiment très compliqué, puisque forcément, il n'y a pas que du jus de raisin sur pas mal de bouteilles. Et du coup, voilà, pour pouvoir appliquer une législation, par exemple, au domaine européen, ça heurterait quand même pas mal de monde et pas mal d'enjeux financiers et tout ça. Donc, je pense qu'on en est très loin. Néanmoins, là, on se recentre un petit peu sur le local. Pour l'appellation Alsace, je pense que juste cette indication de sucre qui n'est ni positive ni négative pour tout le monde aurait peut-être un intérêt. Donc, toi, en tant que vigneron, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus ? Est-ce que tu penses déjà que c'est un problème ? Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ça ?
Bah, c'est devenu un problème parce que le style des vins d'Alsace a changé à partir de la milieu des années 80. Avant, ça ne se posait pas puisque tous les Alsaces étaient secs. Les années se présentaient comme ça. Donc, comme en Bourgogne, l'appellation suffisait. À partir de cette époque-là, des années 80, on a retrouvé des pinots gris qui étaient plus secs, qui étaient demi-secs. On a retrouvé des gewürztraminer qui étaient de plus en plus moelleux. Et donc, sans qu'il y ait eu une indication ou un changement au niveau de la gestion de l'appellation pour dire aux producteurs, bah écoutez, il vaudrait peut-être mieux informer les consommateurs de ça. Ça n'enlève pas la qualité du produit, hein, mm-hmm. On est d'accord. Ça ne s'est pas fait puisque voilà, donc maintenant on se retrouve à avoir des consommateurs qui se sont méfiés puisque ils ont dit bah tiens, je vais prendre un Riesling et puis Riesling normalement ça va avec les poissons et puis ils se retrouvent avec une bouteille qui est douce, c'est doux, c'est rond, c'est oui, ok. Ben non, ça ne va pas avec mon poisson. Donc, à force de faire ça, eh ben, on s'est retrouvé à avoir un manque de visibilité. Mmh. Et donc, les consommateurs, quand ils n'ont pas l'information, ben, ils se détournent et ils vont acheter ailleurs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut juste remettre un peu l'église au milieu du village et simplement le mettre sur l'étiquette. Moi, je le fais déjà pour les vins secs. Pour les vins secs, mais je pense que je vais le faire aussi pour les autres, ou alors de trouver une autre façon, c'est-à-dire que j'ai des couleurs différentes sur mes étiquettes en fonction des cépages, juste utiliser effectivement ces couleurs différentes pour indiquer aux gens, voilà, ça, ce vin il est sec, la couleur verte, si vous avez du vert, ça va être sec, si c'est bleu, ça va être demi-sec, voilà. Il y a différentes façons de faire, mais bon, actuellement la profession ne décide rien, donc c'est à chacun de faire comme il veut. Moi je pense que c'est un minimum, surtout pour toutes les bouteilles qui ne sont pas dégustées directement par les consommateurs. Ils voient juste une bouteille dans un linéaire, et ben il faut qu'ils aient cette information. L'échelle qui a été retirée, qui est encore d'usage chez beaucoup, le problème c'était un problème réglementaire, c'est-à-dire que vous pouvez pas marqué sur une étiquette sec, demi-sec, moelleux, pour réglementairement, soit vous mettez l'un ou l'autre, mais vous ne pouvez pas mettre les trois ou les quatre termes, ce n'est pas légal. Voilà, tout simplement. Donc, même si vous mettez un curseur, vous mettez un curseur rouge, jaune, vert, ça ne change rien.
Donc, toi, tu serais prêt, tu voudrais que, en fait, que ça soit réglementé.
Moi, je pense
obligatoire.
Utilisons
le mot. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas.
D'accord.
Après, c'est vrai que souvent, les consommateurs ont a priori sur les vins demi-secs. Moi, je trouve que, voilà, après, si on fait un bon produit, ça ne devrait pas poser de problème.
Après, ça se fait pour le cidre et pour le champagne, pour le crémant même,
mm-hmm.
déjà. Donc, c'est vrai que les vins pourraient également le faire.
L'autre, ouais, après, il y en a, effectivement, il y a certains producteurs qui ont dit, oui, mais l'échelle, enfin, la quantité de sucre ne correspond pas forcément au goût de mon vin, parce que il faut aussi tenir compte de l'acidité, et il peut y avoir un vin qui a 10 grammes de sucre, mais qui se goûte sec, parce que, voilà, parce qu'il y a un niveau d'acidité qui fait que le vin, au final, il paraît pas doux. Donc, si je mets demi-sec dessus, les gens, ils vont avoir une mauvaise idée. Donc, l'indication n'est pas idéale, je conçois, mais bon, voilà. Il faut bien trouver un moyen d'indiquer quelque chose au consommateur. Quoi.
C'est que j'ai déjà entendu cet argument, c'est que par rapport au champagne, où c'est vraiment demi-sec, j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, 50 mg de sucre par litre, mais au moins l'indiquer effectivement par une échelle, peut-être utiliser d'autres termes pour pouvoir indiquer ça et que ce soit un peu plus clair pour le consommateur final, quoi. Parce que l'exemple que tu prenais était plutôt bon. C'est celui qui prend un poisson et qui ouvre une bouteille de Riesling et qui se fait avoir, bah, la prochaine fois, il va prendre du Chenin et puis il n'aura plus le même problème, quoi. C'est un peu dommage et je pense que c'est quand même une question qui est importante et sur laquelle il faudrait peut-être faire quelque chose. Rendre obligatoire, je ne sais pas, mais peut-être créer quelque chose en interne si c'est le CIVA qui peut décider de ça, qui sait qui serait compétent sur cette question.
C'est l'ODG, l'organisme de défense et de gestion qui s'occupe de ça, qui est en mesure de le décider. Hein. Mm-hmm. Mais bon, comme c'est un organisme qui dans ses statuts et dans sa façon de fonctionner est extrêmement conservateur, voilà, donc je vois pas comment ça peut changer. Après, bon.
Peut-être essayer en interne de plusieurs vignerons qui commencent à décider de quelque chose qui rajouterait sur l'étiquette et puis que de plus en plus se disent bah tiens, c'est quand même vachement lisible. Et puis je sais pas si ça peut venir comme ça du bas.
Ça rejoint un peu ta question avec Christophe. Comment il s'appelle ?
Christophe Soulan.
Soulan, oui. Christophe Soulan, non, parce que je pensais à Soudan, oui.
Oui, effectivement, enfin, la question revient un petit peu, parce que tu as dit que dans les années 80, le sucre a commencé à venir sur les vins d'Alsace. Et qu'est-ce qui a fait ? C'était une recherche du consommateur, finalement ? C'est qu'on... Ça paraissait peut-être un peu plus aguicheur, et puis au final, on s'habituait, on avait envie un peu de sucre dans les années 80 ?
Ben non, en fait, c'est tout simplement qu'on a eu des années qui étaient plus chaudes. Donc les gens, ils ont récolté les raisins, ils se sont retrouvés avec des degrés probables au-delà de 14, mmh. Et la question c'était bah, qu'est-ce que je fais, je vais pas faire un vin à 14 degrés d'alcool, ça va être imbuvable, donc conseil de l'œnologue qui va lui dire bah tu stoppes la fermentation quand tu arrives à 13 ou 12,5, et puis le reste ça va être du sucre résiduel, voilà. Donc après, ce sucre là il est très flatteur, hein. Il y a beaucoup de fruits, donc les gens qui ont goûté ces vins là ils ont dit ah, super, mais très bien. Très très bien, quoi. Donc souvent c'est des vins qui sont vendus très bien, et puis on a eu ces années là donc 88, 89, 90 qui étaient dans ce style là mais après dans le reste des années 90 il n'y a pas franchement une année qui se ressemble comme ça. Et pourtant, on a continué à faire ce schéma parce que ben, ça se vendait mieux. Mmh. Mais il y avait des années dans les années 90 qui étaient des piètres années, comme 91 par exemple, avec beaucoup d'acidité, très peu de maturité. Mais alors du coup, pour garder ce sucre, ben, y en a qui ont rajouté effectivement, ils sont allés chez Erstein directement, et puis ils ont mis de la betterave, du sucre de betterave, voilà, et puis ils ont gardé ce sucre-là. Bon, voilà, donc il y a eu effectivement des gens qui... Alors, je veux dire, honnêtement ou pas honnêtement, hein, c'est pas la question. Hein, ça s'est passé comme ça. Moi, je pense qu'effectivement, il faut informer le consommateur. Mais bon, après, les instances interprofessionnelles, hein, comme le CIVA, par exemple, ça fait longtemps qu'ils essayent un petit peu de faire quelque chose, d'inciter les viticulteurs et les vignerons à mettre ça sur les étiquettes. Mais certains refusent. Donc voilà, après, je ne suis pas... Moi, je souhaiterais qu'effectivement, il y ait une réglementation. Mais pour l'instant, je pense que je ne sais pas si la profession elle est prête à le faire.
De toute façon, le consommateur, à un moment donné, va certainement inciter, puisque le consommateur, on est tous consommateurs au final. On a ce pouvoir de pouvoir changer les choses. Souvent, on pense que c'est en haut lieu, mais moi, j'ai cette théorie que c'est nous qui décidons de ce qu'on achète et de ce qui marche. Si moi, j'ai pas envie d'acheter une marque, quelle qu'elle soit, ben, je ne l'achète pas. Donc, on n'a aucune obligation de faire en sorte qu'elle s'enrichisse. Par contre, on a vu aussi que le consommateur a forcé parfois les agriculteurs, même la grande distribution a évolué. Je prends toujours l'exemple des bières artisanales parce que pour moi, c'est un petit peu l'exemple qui a fait que les grands groupes, les trois grands groupes de bières, donc Kronenbourg, etc., n'ont pas vu l'arrivée des bières artisanales. Mais une fois qu'ils ont vu que les bières artisanales prenaient une place de plus en plus importante, évidemment, en termes de chiffre d'affaires, ça ne représente pas grand-chose, mais quand même, ils se sont mis petit à petit à travailler eux aussi d'autres formes de bières. Donc, on a vu, quand ils ont vu la IPA, parce que Kronenbourg n'a jamais fait d'IPA, par exemple. Donc, je pense que là aussi, le consommateur, en termes de vin, ça rejoint un peu la question que je posais dans le premier épisode. Dans 5-10 ans, certainement que... Moi, j'ai un rêve. I have a dream. C'est mon côté Martin Luther King, mais déjà que le consommateur arrête d'acheter, surtout les vins d'Alsace, quand il vient en Alsace, d'acheter ses vins en supermarché, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut pousser, alors tu parlais de l'oncle Malker, mais il y a plein de petits cavistes où on peut pousser les portes et tester les vins, avoir un vrai choix et un vrai service où ils connaissent vignerons avec qui ils travaillent, l'histoire, etc., donc une vraie identité. Et peut-être que le jour où les gens arrêteront d'acheter les vins en supermarché aussi, les choses vont certainement aussi évoluer pour... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai cette théorie que en secret, je me dis, si 1% de nos auditeurs arrêtent d'acheter les vins en supermarché, ce sera une petite victoire. Alors, est-ce que c'est pas aussi la grande distribution qui a fait que les choses ont changé, parfois dans le mauvais sens aussi?
Sûrement c'est le cas. Après, la grande distribution, si elle vend mal, elle a aussi des exigences. Donc, elle aurait pu... je pense qu'elle s'est un peu complaint. C'était facile, ça se vendait quand même. Aujourd'hui, on est clairement... il y a des méventes dans beaucoup de vignobles, dont l'Alsace. Et ça provient principalement de ce réseau de distribution. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut revoir les choses.
Mais pour toi, alors je rebondis un petit peu sur la question un petit peu que je disais. Pour toi, un étiquetage un peu plus précis, tout ce qu'on nous a demandé, mettre les différents ingrédients pour les femmes enceintes, etc. Est-ce que tu verrais ça d'un bon œil ou tu te dis, mais en fait, finalement, ça va prendre une place énorme et on reparlait de quoi?
Alors, pour les ingrédients, l'idée, en fait, je pense que c'est ça que la Commission européenne avait dans les têtes. Hein, c'était qu'il y ait une espèce de on appelle ça QR code, c'est ça? Mm-hmm. Et qu'en fait, ça permet d'avoir un lien. Et ce lien, en fait, vous mettez les ingrédients qui ont servi dans le vin, quoi. Ça évitait de surcharger trop les étiquettes, surtout s'il y en avait beaucoup d'intrants. Après, mm-hmm. S'il n'y en a pas beaucoup, suffit juste de mettre que ça provient du raisin. Et ça suffira 100%. Largement. C'est pas si simple, mais voilà.
Est-ce que c'est pas aussi la mouvance? Alors, j'appelle ça une mouvance, j'ai toujours peur que ce soit un effet de mode et j'espère pas que ce soit un effet de mode. Des gens, des consommateurs, des vins nature qui forcent aussi un peu les vignerons conventionnels à changer aussi leur vision ou être un peu plus précis.
Là, c'est la mode de la transparence plus. C'est le fait de
savoir... dans la transparence, mais partout. Hein.
Qui forcément aboutit à le moins d'ingrédients possible sur tout ce qu'on consomme. Mais
le vin fait partie de ça. Hein. Évidemment.
Une grande histoire. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est au début de quelque chose de neuf. J'explique souvent que j'avais du mal pendant des années à boire des vins d'Alsace. Moi, je ne suis pas si vieux que ça non plus, quand j'ai dit des années. Mais parce que ça me donnait mal au crâne.
C'est une carte d'identité, s'il vous plaît.
D'accord, merci. J'ai 18 ans, monsieur. parce que ça me donnait mal au crâne et que c'était juste insupportable, quoi. Et que là, non. Mais aujourd'hui, j'ai plus cette peur de boire un vin. Parce qu'un mal de crâne, quand tu bois du vin, je crois que c'est le mal de crâne le plus insupportable qui existe. Et là, non, c'est plus le cas avec de plus en plus. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est un peu la mauvaise réputation qu'a eu les vins d'Alsace, c'est qu'ils ont le mal au crâne.
Ah bah oui, mais ça revient encore.
Ça revient encore.
Bon, ça revient encore. La question revient encore.
On est quand même sur la fin de ce point de vue-là. Je crois qu'on est quand même arrivé à une fin. Ça donne plus de mal au crâne, à part si vous poussez un peu trop. Mais c'est de votre faute dans ce cas-là.
C'est ça. C'est pas, on peut pas tout mettre sur le dos des sulfites non plus. Et voilà. Pour revenir un petit peu sur le sucre, du coup, est-ce que toi, tu vois qu'il y a une évolution quand même dans les goûts de tes clients ?
Alors déjà, il y a une évolution dans mon goût. Donc j'imagine que bah, pour les gens, c'est un peu pareil. Moi, j'ai plus envie de faire des vins plus secs. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi sur la carte. Et après, est-ce que j'aurais plus que des vins secs après ? Je ne sais pas. À voir, pourquoi pas. Mais c'est, ouais, moi, ça ne me choquerait pas. Hein.
Donc arrêter la vendange tardive et sur la fin ?
Non, c'est des choses qui font quand même toujours plaisir. Il s'agit pas, c'est de toute façon, c'est des produits qu'on va ouvrir occasionnellement. Et il s'agit aussi de se faire plaisir à ce moment-là. Non, je ne vois pas ça. Non, on va continuer à faire des vendanges tardives, bien sûr. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais bon, après, peut-être qu'il faut aussi des fois le faire différemment, trouver de nouvelles idées hein, pour ça. Il y a différentes façons de faire des liquoreux. Il n'y a pas juste la façon dont on le fait actuellement. Il y a d'autres vignobles qui le font vraiment complètement différemment. Même les Touquets en Hongrie, quand ils font des vins liquoreux, ils font ça totalement différemment. Hein.
T'en vois, toi, des vins liquoreux ou t'es vraiment dans le sec ?
Je suis beaucoup plus dans le sec, effectivement. J'ai tendance à trouver que les vins liquoreux sont un petit peu lourds. En fait, le premier verre, les trois premières gorgées sont vachement plaisantes, mais derrière, je trouve que c'est un petit peu lourd. Néanmoins, oui, je pense pas que ce soit une bonne idée d'arrêter ces choses-là, qui font quand même... C'est une spécificité alsacienne. Enfin, les vins vendanges tardives et pourriture noble, botrytisée, c'est quand même quelque chose qui est super bon et très très sympa à boire aussi. Quoi.
Et là, j'ai la chance, cette année, on a pu récolter un Riesling en vendange tardive. Ça faisait depuis 2010 que je n'avais pas fait. Et voilà. Donc c'est en cours de fermentation. J'espère que ça va faire un beau vin. Mais Riesling vendange tardive, j'aime bien cette combinaison entre le côté rond, fruité, et en même temps beaucoup de fraîcheur en finale. Et voilà. Donc là, du coup, on n'a pas ce côté trop suave et on garde la fraîcheur en fin de bouche. Et là, on peut terminer la bouteille.
Ce qu'on va faire, c'est que l'épisode 50, on va réunir nos deux parrains et on pourra le goûter à ce moment-là.
J'étais en train de me dire, à 50, on devait voir Florian, normalement.
Non, mais en fait, je viens d'avoir l'idée en me disant, pourquoi on ne ferait pas un épisode croisé entre un crossover, comme dans les séries. On a pris Allociné, bonjour.
Pas comme dans les SUV, non, c'est ça, c'est
Non, mais avec hybride, la rencontre, la rencontre au sommet de nos deux parrains.
Ça peut être une idée.
En tout cas, merci pour ce débat.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est sur ces belles paroles que se termine notre petite escapade à Orchiller. J'ai trouvé ce moment très sympathique.
Très convivial, oui,
convivial.
Complètement.
Mm-hmm. On était le 1er novembre, il faisait mauvais, il pleuvait quand on est arrivé.
Moi, je ne vois pas les nuages, hein, mais c'est peut-être moi, hein, mais après 4 verres.
Comment as-tu vécu cette aventure ?
Bah écoute, c'est une belle rencontre. Je connaissais pas Adrien, donc je suis ravi d'avoir fait ta connaissance.
Bah moi le même.
Et puis merci Mika pour cette initiative et ce podcast.
Alors l'idée, c'est vraiment de mettre en avant notre région, parce que je vous le répète encore une fois, non, nos vins ne sont pas ringards, même si je poserai à chaque fois la question vigneron. C'est un peu la question qui fâche. Vous dire, poussez la porte des cavistes, allez à leur rencontre. Prenez un train, il y a ne serait-ce que la ligne, je le dis toujours, mais c'est vraiment ça, la ligne Molsheim-Célestat, vous avez plein de vignerons. Célestat, vous arrêtez, vous prenez le vélo, Orchiller, c'est à 6 km, donc c'est faisable, c'est pas non plus, et en plus...
Il y a un bus aussi, hein.
Il y a un bus, en plus, il y a un bus, et surtout, quand vous allez chez un vigneron en Alsace, sachant qu'on a 7 cépages, vous goûtez minimum 7 vins. Mais comme ils ont une entrée de gamme, une moyenne gamme, et des grands crus, vous avez parfois la chance de goûter beaucoup plus que ça. Donc ça en vaut la peine, non ?
Clairement, ouais.
Alors que dans d'autres régions, ils ont 2 cépages.
Bon, tu abuses un petit peu, mais, mais effectivement, c'est quand même dommage que c'est souvent dans sa propre région qu'on connaît le moins les vins, puisque quand on va ailleurs, on va pousser la porte des vignerons un peu plus facilement, et dans notre région, on se dit bah, c'est bon, on connaît, on a fait le tour, on y est né et tout. Et en fait, non, pas du tout. Il faut avoir cette curiosité-là toujours dans ses propres villages et aller rencontrer les vignerons de chez nous.
En tout cas, soyons fiers de nos vins, soyons fiers de nos vignerons. Rendez-vous au mois de janvier avec une surprise. Tout simplement, on n'a pas encore décidé, donc c'est ça la surprise. Encore une fois, merci Jean-Yves pour ton accueil, pour ton sourire. Bonne chance pour la suite.
Merci.
On te suivra. N'oublie pas que on pensera à ce petit cépage que tu vas, dont tu ne veux pas nous parler, mais qui va arriver.
Ce n'est pas de la Syrah, voilà.
Ce n'est pas de la Syrah. Bon bah, il y a quelques choix. En tout cas, merci à toi, merci Adrien, merci Alexis, et rendez-vous au mois de janvier pour de nouvelles aventures.
À très bientôt.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.